partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Canal Académie a fait un long voyage, 12 heures de vol, Paris, Rio de Janeiro, pour rencontrer le délégué général des Alliances françaises au Brésil, Monsieur Yann Lorvaux.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans la ville merveilleuse, puisque Rio s'appelle Cidade Maravilhosa. Vous avez certainement dû très vite comprendre pourquoi on l'appelait comme ça.
Absolument, oui. Et en plus, vous m'avez raconté tout à l'heure que votre Alliance française, donc au centre de Rio de Janeiro, une ville vraiment tourbillonnante, entre autres parce qu'il y a énormément de facettes de cette belle ville, et vous avez donc vos fenêtres qui donnent sur une église où est née la samba. Racontez-nous ça.
Nous sommes installés dans le centre de Rio, dans les vieux quartiers. Nos bureaux se trouvent à côté d'une église qui est l'église du Rosario. Et c'est dans cette église qu'est né le carnaval. Carnaval qui est né sous l'impulsion et la créativité donc d'un certain nombre d'anciens esclaves qui se réunissaient dans cette église, qui était leur église, et qui sortaient pour faire ensuite des défilés une fois dans l'année. Et c'est comme ça que tout est né. En fait, le carnaval est né dans ces petites ruelles pavées qui sont très étroites. Et on imagine difficilement, du reste, que les premiers chars du carnaval, très sommaires, passaient comme ça dans ce quadrilatère au centre de ce qui était Rio à cette époque-là.
Nous sommes donc à Rio, vous avez compris, mais nous allons quand même parler un peu du Brésil. C'est le plus grand pays de l'Amérique du Sud, mais c'est, on pourrait presque dire, un continent en soi, avec un territoire de combien de kilomètres carrés ?
17 fois la France. Voilà, je crois que c'est plus simple. C'est une échelle qui permet à tout le monde de se repérer. Le Brésil, aujourd'hui, c'est pratiquement 200 millions d'habitants et ça représente 17 fois la France, en sachant que les trois quarts de la population vit sur la côte du Brésil, c'est-à-dire vit près de la mer.
Oui, parce qu'il y a d'énormes territoires comme l'Amazonie qui sont quasiment inhabités.
Absolument. Vous n'êtes pas sans savoir que le poumon vert de notre planète se trouve ici, en Amazonie. L'Amazonie qui est un pays de légende, un pays de mythes, mais aussi un pays de richesse, un pays où tous les regards sont croisés. Et à quelques jours de l'ouverture de la grande réunion de Copenhague, effectivement, le Brésil réfléchit avec le monde entier sur l'avenir de l'écologie et aussi sur une économie plus équilibrée, plus respectueuse de son environnement. Le Brésil est un pays riche. D'abord, le Brésil, d'une certaine façon, c'est une île. C'est une île dans un océan, et cet océan, c'est celui de l'Amérique latine. Vous savez que c'est le seul pays qui parle portugais. Et donc, pendant très longtemps, finalement, le Brésil a été assez isolé dans sa langue, dans sa culture, dans ses traditions. La colonisation est une colonisation portugaise, alors que dans le reste de l'Amérique latine, c'est une colonisation espagnole. Et en fait, le Brésil s'ouvre aux autres pays de l'Amérique latine, à ses voisins, depuis très peu de temps. Du reste, le Brésil s'intéresse au monde depuis assez peu de temps. Mais il s'y intéresse comme une grande puissance aujourd'hui, incontournable, qui fait partie du G20, qui a une relation très privilégiée et remarquable avec notre pays, avec la France. Il y a eu des accords stratégiques qui sont signés et qui réellement rapprochent nos deux pays, qui défendent au niveau international les mêmes valeurs, la même vision du monde, un monde plus équilibré, un monde plus solidaire, un monde plus respectueux de son environnement. Et le Brésil a des choses à dire, parce que le Brésil a plein de matières premières. On vient encore de découvrir des gisements pétroliers, qu'on appelle ici le pré-sal, c'est-à-dire des gisements qui sont extrêmement profonds, à plus de 3000 mètres de profondeur. Et les Brésiliens ont la technologie pour aller là. Les Brésiliens ont aussi la technologie pour fabriquer des avions. Il y a une entreprise qui est l'entreprise Embraer, qui fabrique des avions de moyen et long courrier et qui se développe dans le monde entier. Les Brésiliens travaillent aussi sur la fabrication de satellites qu'ils envoient avec les Chinois. Les Brésiliens travaillent aussi maintenant sur le nucléaire civil. Ils ont des centrales et du reste, une coopération avec la France va certainement permettre d'améliorer les performances et d'une certaine façon de permettre au Brésil de diversifier ses sources de production énergétique. Il y a aussi ces grands barrages. Il y a ce grand barrage magnifique, extraordinaire, qui se trouve à la frontière du Paraguay et de l'Argentine. Le Brésil est multiple. le Brésil est pluriel. Le Brésil n'est plus un pays d'avenir, c'est un pays du présent qui, par contre, lui, va certainement construire le futur, en tout cas va participer à la construction du monde de demain.
Ça me fait penser à un petit passage que j'ai trouvé dans un livre très intéressant sur le Brésil. Si vous permettez une petite parenthèse, je vais vous la lire parce qu'elle reflète tout à fait ce que vous venez de dire. Certes, le Brésil a longtemps tourné le dos à sa forêt, puisqu'on parlait de l'Amazonie. Il ne savait qu'en faire, mais il y puisait en même temps son optimisme, son attentisme de monolithe sûr de lui. Là-bas dormaient tous les trésors. Là-bas était le ventre fertile qui un jour se mettrait à germer. Ces tropiques inextricables symbolisaient sa difficulté d'être, son impossibilité à transformer en pays l'ébauche du pays, en arpant du bon Dieu la naissance du monde. Il ne s'impatientait pas. Demain, il serait le grenier de la planète, son pourvoyeur en minerais, sa réserve d'oxygène, son château d'eau, sa fontaine de jouvence. Demain, le Brésil tendrait la main au reste du globe et lui apporterait en même temps que sa bonne humeur ses virtualités intactes. C'est très joliment formulé aussi par cet écrivain Charles Vanek sur le Brésil. Donc ça, c'était plus particulièrement l'Amazonie, mais il y a bien sûr les autres provinces. Vous avez parlé tout à l'heure que la population est concentrée principalement sur les côtes, particulièrement les côtes sud-est, comme Rio de Janeiro et São Paulo. Et puis il y a le nord-est.
Pour revenir sur cette citation que vous avez faite, on peut dire qu'aujourd'hui, la belle au bois dormant s'est réveillée. Si le Brésil est resté longtemps, en tout cas apparemment, endormi, alors que c'était un pays qui construisait son identité, c'est un pays qui est jeune, n'oublions pas ça, on ne se construit pas du jour au lendemain. La France a des siècles d'histoire qui font qu'aujourd'hui elle est ce qu'elle est. Le Brésil est un pays jeune, un pays neuf, finalement, et sur un territoire immense. Comme je vous disais, il n'y a pas un Brésil, il y a des Brésils. On ne parle pas au singulier, on parle au pluriel, on met tout en majuscule ici. Tout est grand, tout est loin, tout est beau. Tout est surprenant. Et donc, bien évidemment, on a un or qui a une tradition plus pauvre. Le nord avec le sertan, avec ses grandes exploitations agricoles, avec ses grands propriétaires terriens. Mais en même temps, ce nord est en train de se réveiller lui aussi, de se développer. Et on a un sud traditionnellement plus industriel, mieux structuré, certainement, qui lui aussi apporte énormément à ce pays. Et puis, il y a tout le reste de ce pays. Il y a ce centre, il y a cette ville de Brasilia qui est sortie de nulle part, de rien, qui est certainement une des plus belles signatures d'architecture et un des plus grands fantasmes qu'on a transformé en réalité il y a maintenant 50 ans, puisqu'on va fêter les 50 ans de la ville de Brasilia cette année, de sa fondation.
Maintenant, en 2009 ?
Oui, c'est un pays de visionnaires en 2010. C'est un pays de visionnaires. C'est un pays qui nous surprendra toujours. Il se passe quelque chose ici et ça se passe vite parce que le monde aujourd'hui fonctionne plus vite. Si vous voulez, je pense que les pays se construisent au rythme du temps qui passe. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que dans un monde global où tous les moyens de communication se mêlent, où les gens entrent dans une société de consommation très rapidement, eh bien, les choses se construisent beaucoup plus rapidement et plus spectaculairement avec énormément de défis à relever. Mais certainement, le Nord est un des grands espoirs du Brésil. Et honnêtement, je peux vous dire aujourd'hui que le Brésil a certainement été un des pays les moins touchés par cette grande crise économique que nous avons vécue. On parle encore au présent, malheureusement, dans beaucoup d'autres pays du monde. Ici, on parle un petit peu au passé. On est sorti de cette grande crise économique. On en sort. Il faut moduler tout ça. Il y a encore certainement des ajustements et des adaptations à faire, et il y a de la souffrance encore, c'est certain. Mais le Brésil est un pays qui va vite, qui construit vite, qui avance vite. Et puis, un pays qui va organiser la Coupe du Monde de football en 2014, qui va devoir, bien évidemment, structurer son pays et plusieurs villes, puisque la Coupe du Monde, ce n'est pas un seul pays, c'est plusieurs villes. Et il y a un certain nombre de villes dans le nord du Brésil qui ont été retenues et qui permettront certainement au pays d'accélérer sa modernisation. Et puis vous avez après, en 2016, les Jeux Olympiques à Rio. Et là aussi, finalement, ça va certainement être un déclencheur énorme pour propulser ce pays dans le 21e siècle. Donc le Brésil a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a de l'espace, il a un peuple préparé, ou qui se prépare en tout cas à tout ça. Et puis c'est un pays qui ne fait pas peur. Dans les grandes puissances, par exemple, la Chine fait peur. Quand on parle de la Chine, tous les gens ont peur. On se dit, oh là, mais comment va se passer son développement ? Qu'est-ce qui va arriver demain ? Quel type de relation on peut avoir ? On n'a jamais ce discours quand on parle du Brésil. Au Brésil, les gens y voient le même mouvement, ce même dynamisme, ce jaillissement. Le Brésil change tous les jours, mais ça ne fait pas peur.
Il faut dire que la population est tellement gentille, une gentillesse qu'on avait oubliée en Europe, je dois dire. Et il y a un apport à l'autre d'une ouverture, d'un optimisme et d'un dynamisme et d'une grande bonté et une joie dans le regard qui est assez remarquable, je dois dire.
Alors effectivement, c'est certainement un pays qui a au niveau de sa population vraiment un potentiel incroyable. C'est-à-dire que culturellement, hein, on parle de culture, les Brésiliens sont des gens ouverts, agréables, sympathiques, souriants. Le premier contact est toujours un contact agréable et qui surprend. Dans nos sociétés européennes où, d'une certaine façon, l'individualisme, la solitude au milieu de la foule se décline de plus en plus. Ici, les gens sont toujours disposés, disponibles à vous sourire déjà. Enfin, ça change la vie. Quand vous êtes dans la rue, que vous passez devant quelqu'un, que vous saluez ou une personne à qui vous adressez un sourire et qui vous le rend, écoutez, ça vous change la journée. Quand vous adressez à quelqu'un qui va prendre quelques secondes pour vous aider à trouver votre chemin, qui va vous aider si vous avez une petite difficulté à porter un sac ou autre chose, c'est vraiment ça le Brésil. Les Brésiliens sont avant tout des gens qui sont un petit peu comme leurs fruits et leurs fleurs. Hein. Ils ont du goût, ils ont de l'épaisseur. Ils ont cette disponibilité, cette spontanéité immédiate. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans une description idéale. Hein. Le Brésil est aussi un pays qui a une grande complexité. Hein. C'est un pays où la mixité est absolument une réalité. Ça ne veut pas dire qu'à travers cette mixité, il y a une égalité entre les différentes couches de la population et surtout entre une population noire, une population métisse et une population blanche. Il ne faut pas tomber dans un portrait qui serait un portrait effectivement paradisiaque. Il y a des grands défis que le Brésil est en train de gérer. Il y a de grandes inégalités que le Brésil doit résoudre. Il y a de gros problèmes que le Brésil doit effectivement arriver à solutionner un peu partout dans le monde. Hein. Chaque pays a ses problèmes, a ses difficultés. Alors, vous avez d'un côté cette image qui est une image extrêmement altruiste, sympathique, joyeuse, c'est incontestable. Hein. Mais en même temps, d'un autre côté, vous avez aussi une situation sociale où il y a des inégalités qu'il faudra et qu'il faut et que le gouvernement est en train d'essayer de résoudre au niveau de l'éducation, de la santé, des infrastructures, du logement. C'est un pays qui se construit, qui bouge, qui avance. Donc il avance avec cette joie, et il avance aussi avec ses difficultés.
C'est l'impression qu'on a quand on arrive dans ce pays, qu'il y a comme une sorte de mixité idéale, on pourrait dire, entre les différentes ethnies. On constate en tout cas sur place un mélange apparemment très harmonieux entre le blanc portugais, le noir indien ou africain, ou toutes les variantes de métissage. Et cela donne vraiment un type brésilien d'une beauté souvent époustouflante. Et on a l'impression que la ségrégation n'existe pas, peut-être moins sur le plan ethnique que sur le plan social, comme vous venez de l'évoquer. Évidemment, il y a une énorme différence économique, sociale entre les différentes couches de population. Les fameux, les célèbres favelas qui sont penchés sur la montagne. C'est assez joli à regarder la nuit, je dois dire, avec toutes les lumières qui viennent de la montagne. Mais quand on regarde d'un peu plus près, c'est assez dramatique, je crois, la vie dans les favelas.
Il faut vraiment garder un petit peu cette lucidité. Les Brésiliens ont fait le choix de profiter de la vie aujourd'hui. Ça, c'est culturel. Leur histoire, qui est une histoire pas toujours facile, hein. Je rappelle qu'il y a eu une longue dictature. Je vous rappelle qu'il y a eu des crises économiques très fortes qui ont fait perdre à beaucoup de gens tout en quelques secondes. Donc il me semble que la mentalité brésilienne tient compte de ça. Donc la vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et donc si c'est aujourd'hui et maintenant, il ne faut pas que ce soit triste, il ne faut pas que ce soit tragique, il faut que ça soit le plus sensuel, émotionnel possible. Et finalement, faire un sourire ou tendre une main, eh bien voilà, ça fait partie aussi de cette jouissance de la vie aujourd'hui. Mais ça n'enlève pas, loin de là, des problèmes qui sont des problèmes structurels qu'un pays doit résoudre. Mais un pays comme le Brésil, certes, mais comme tous les grands pays de ce monde aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une vraie volonté, en tout cas on sent une vraie volonté des pouvoirs publics, des associations, des fondations ou même des entreprises privées pour aller dans ce sens-là. Alors finalement, il faut de gros projets, de gros défis. Et c'est vrai que je crois que l'organisation de cette Coupe du Monde et l'organisation des Jeux Olympiques apportent finalement au Brésil un bon prétexte pour accélérer encore la préparation de ce pays et l'amélioration des conditions générales et surtout du partage de ces infrastructures. Mmh. C'est un pays vraiment qui avance. Voyez-vous, souvent, quand on travaille, nous, on a la chance de travailler dans plusieurs pays tout le long de notre carrière. J'ai jamais ressenti un tel mouvement. J'ai connu des pays immobiles, j'ai connu des pays qui vivaient certainement avec une grande difficulté de s'inscrire dans le présent. Le Brésil vous emporte comme si vous étiez sur un manège et vous tournez, vous tournez, vous tournez avec lui jusqu'à l'ivresse, parce que c'est un pays qui ne s'arrête pas. C'est un pays qui ne vous attend pas sur le quai, ou vous montez dans le train, ou alors voilà, vous n'avez rien à faire ici.
Oui, on sent une vraie humanité dans le meilleur sens du terme, et même parfois on sent un côté charnel, cette exubérance de l'esprit, comme vous venez magnifiquement de le décrire. Ça donne une proximité, les gens s'embrassent facilement, le mouvement des corps est aussi quelque chose de très impressionnant. Alors, on a oublié ça un peu en Europe, on devient un peu vieux, alors qu'ici tout est jeune, tout est beau, tout est en mouvement.
Alors ce qui est certain, c'est que les gens sont souvent à l'image du pays dans lequel ils vivent. Si je prends Rio et les Carioca, vous êtes sur un site quand même incroyable. Vous avez la forêt qui est dans la ville et vous avez la mer qui est à vos pieds. Donc on est, cette mentalité, elle est aussi due au lieu, à l'environnement dans lequel vivent les gens. Il y a une vraie beauté esthétique de Rio, comme il y a une vraie beauté écologique de Rio. Ce mélange, ce cocktail entre la mer, le bleu de la mer, le vert de la forêt et le gris de la pierre, c'est quelque chose qui donne le tournis. Alors, c'est vrai qu'il pleut également, c'est pour ça que c'est vert. C'est certain que les plages sont, certaines sont polluées, donc on ne s'y baigne pas partout ni tout le temps. Mais néanmoins, le Carioca vit dehors. Et la relation au corps, c'est une relation qui est très différente de la nôtre. Ici, que vous soyez maigre, gros, que vous vous sentiez top modèle ou que vous vous sentiez pas très bien dans votre peau, vous pouvez offrir votre corps au regard des autres, ça ne gênera personne. On ne rira pas de vous parce que avec quel kilo en trop, vous avez décidé d'aller sur la plage, personne ne vous regardera d'un air comme ça critique, en évaluant un petit peu cette honte de présenter comme ça votre corps.
Quelques imperfections.
Voilà, liées à l'histoire ou à la gourmandise. Non, pas du tout. Là, vous êtes comme vous êtes, le corps, il est là, et puis c'est tout. Alors, à côté de ça, à Rio, vous avez en plus tous les sports de plage, c'est-à-dire que les gens font énormément de sports, que ce soit du volley de plage, du foot de plage, du tennis de plage, ils courent, ils font du vélo. Donc, il y a cette effervescence, c'est très drôle du reste. Le matin, on se lève très tôt ici, puisque le jour se lève, comme dans tous ces pays, très tôt. Et alors, à partir de 6 heures, c'est-à-dire avant d'aller au travail, de 6 heures à 8 ou 9 heures, vous avez des milliers de Carioca qui sont dehors, qui courent le long de la plage, qui vont dans les académies, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les salles de sport, et qui profitent de ce moment-là pour être dehors, pour s'entraîner, pour se préparer, pour être déjà, d'une certaine façon, heureux dans la journée qui s'annonce.
Donc ils ne sont pas si nonchalants que ça, finalement. Ils sont quand même assez industrieux aussi.
Honnêtement, on travaille au Brésil comme on travaille en France. Hein. Il n'y a aujourd'hui aucune différence. Mais j'ajouterai une chose. Le Brésil, on ne peut le comprendre que quand on comprend l'importance de la musique et de la musique folklorique, donc la samba, la bossa nova. La musique populaire est vraiment un des piliers de l'identité même du Brésilien. Et je voudrais rajouter deux autres choses pour un étranger. On est fasciné quand on arrive dans ce pays par les fleurs. Les fleurs sont magnifiques. La nature est magnifique. Son exubérance, vous avez dit le mot exubérance, ça va très très bien, c'est exactement ça. Et puis aussi, la saveur de ses fruits. Vous mangez dans ce pays, vous goûtez dans ce pays, d'abord des fruits que vous ne mangerez nulle part ailleurs, mais même ceux que vous connaissez n'ont pas le même goût. Vous me demandiez quelles ont été vos premières impressions en arrivant. Ben, je vous dirais ça. Moi, j'ai été très impressionné par les couleurs, et par les saveurs des fruits particulièrement. Et puis bien évidemment, cette musique qui est incontournable. Vous ne pouvez pas participer à une fête sans que tous les Brésiliens reprennent en chœur les chansons de leurs idoles. Alors ce qui est très drôle du reste, c'est qu'ils sont assez protectionnistes par rapport à ça, parce que le pays était longtemps renfermé sur lui-même, comme on disait, d'une certaine façon. Ils sont tout à fait autosuffisants, enfin ils étaient au moins, en tout cas, dans une logique d'autosuffisance par rapport à leur propre culture. Ils se nourrissent de leur culture, de leurs chanteurs, de leurs mouvements artistiques. Ils connaissent par rapport à ça toutes les chansons par cœur et ils les reprennent. On a l'impression des fois d'être dans des chorales vivantes. On a l'impression des fois d'être, je sais pas, dans une, pratiquement dans une cérémonie religieuse, quand dans un stade de football, dans une salle de concert, toute la salle reprend, mais pas seulement les refrains, mais toutes les paroles des chansons. Et là, vous regardez ça, vous, en tant qu'étranger, et vous vous dites, oh là là, effectivement, il y a vraiment des choses qui sont importantes dans ce pays et cette culture populaire en fait partie.
Et pendant ce temps-là, on entend sonner les cloches qui accompagnaient vos paroles. Il est midi à Rio. On est à 3 heures de différence par rapport à Paris. Et quelles sont ces cloches ?
Ah ben, c'est les cloches de l'église du Rosario. Oh,
voilà.
Et je recommande,
du carnaval.
Du carnaval. Je recommande à votre public, s'il passe par Rio, de venir le jeudi. Le jeudi, il y a une messe à partir de midi où il y a des chœurs absolument incroyables qui chantent pendant des heures. Et donc, je ne suis pas bercé par les cloches, mais par les chants à ce moment-là. Et je peux vous assurer que c'est absolument émouvant et saisissant.
Donc, votre bureau a vraiment une place privilégiée dans la ville.
On est au cœur du quartier populaire. On est au cœur de la fondation de la ville, d'une certaine façon. On est au cœur aussi de la présence française, puisque les premiers bâtiments français qui ont été construits au moment de l'édification de Rio étaient dans cette zone-là, si vous voulez. Alors, c'est le cœur populaire aujourd'hui. Hein. Il y a un marché qui s'appelle le Mercado Popular, qu'on appelle aussi le Sahara, parce que c'est une sorte de grand souk où on trouve de tout. Là, vous êtes dans un Rio que personne ne voit. Vous n'êtes pas dans le Rio de la carte postale. Parce que c'est ça aussi le Brésil, c'est ça aussi Rio.
C'est pas Copacabana.
Voilà, vous avez plusieurs Rio. Vous pouvez vous contenter d'avoir le Rio de la carte postale, le pain de sucre, le Corcovado.
C'est-à-dire le Christ Rédempteur.
Le Christ Rédempteur du Corcovado. Mais vous avez également des quartiers beaucoup plus populaires qui expriment aussi vraiment ce qu'est ce pays aujourd'hui.
Peut-être avant de faire une courte pause, un petit survol sur l'histoire. Vous venez de parler des premières constructions françaises dans la ville de Rio, mais la France a essayé dans le temps, enfin déjà je crois au XVIIe siècle si je ne m'abuse, d'établir un peu une colonie, mais ils ont vite été chassés par les Portugais. Enfin de toute façon ce sont les navigateurs portugais qui ont découvert cette terre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit survol de l'histoire, s'il vous plaît ?
On va faire un petit survol, hein, et vous m'excuserez pour les imperfections, bien évidemment. Mais d'abord, ça commence en réalité au XVIe siècle. Au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, ce sont les Portugais, à 50 ans près, hein, ce sont les Portugais qui découvrent le Brésil et qui vont s'y installer. Mais le Brésil aurait pu être français à un moment donné, on aurait pu aujourd'hui parler en français, ce qui aurait forcément changé certainement la face, en tout cas, de ce continent. Bon, néanmoins, au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Au XVIe siècle, eh bien, beaucoup de Français naviguaient déjà au Brésil. C'était des corsaires, des contrebandiers. Et qu'est-ce qu'ils faisaient au Brésil ? Eh bien, en fait, ils venaient au Brésil parce qu'on y trouvait un arbre qui était absolument extraordinaire, qu'on appelle le Pau Brasil, l'arbre du Brésil, et qui contenait une substance rouge qui, une fois extraite, servait à teindre les tissus. Et au XVIe siècle, vous savez bien évidemment que c'est le moment où il y a une grande industrie textile qui se met en place. Et particulièrement en Normandie, dans les ports de Dieppe et de Rouen, il y avait effectivement une grande industrie liée à tout ça. Donc, nos amis les corsaires français, qui naviguaient un petit peu partout dans le monde, allaient donc sur les côtes brésiliennes. Et en fait, ce pin, ce pau Brasil, cet arbre brésilien, se trouvait près des côtes. Et les Français ont immédiatement tissé des liens commerciaux, voire d'amitié avec les Indiens qui vivaient là. Et il n'y a jamais eu une relation ni de violence, ni la volonté d'en faire des esclaves. Il y a toujours eu une très bonne relation entre ces corsaires et ces contrebandiers français qui cherchaient uniquement à faire du commerce. Bon, ça, c'est le premier moment fort. On est au XVIe siècle. Puis après, il y a... Alors là, on tombe dans le roman, ce qui est formidable, parce que je vais vous citer quelques noms qui font rêver. En 1555, on a Villegagnon qui vient s'installer donc au Brésil, qui vient s'installer pour en réalité deux choses. D'abord pour continuer à faire de l'exploitation du bois, mais aussi pour installer une communauté protestante. On est au bord des guerres de religion en France et en Europe à ce moment-là. Et donc il vient fonder une communauté protestante et donc c'est ce qu'on va appeler la France antarctique. La France antarctique. Rien que le mot est magique. Alors la France antarctique ne va pas durer très très longtemps. Enfin, un Rio, en tout cas, est dans la baie de Guanabara. Il y a un fort qui est édifié, c'est le fort de Coligny. et il y a une communauté donc qui va s'installer. Alors du reste, il avait eu beaucoup de mal à trouver des volontaires au début. Il avait écumé les prisons de France et de Navarre pour trouver des volontaires pour l'accompagner dans cette première expédition. Alors quelque part, l'histoire continue, puisqu'en fait, les Français vont être expulsés par les Portugais. Retenons ce mot magique, la France Antarctique. Pour les amateurs, allez sur Google, tapez France Antarctique et vous découvrirez mille et une aventures de ce rêve qui ne s'est pas transformé en réalité. Ensuite, on continue, 1612, c'est la fondation de São Luís do Maranhão. Alors, il y a une ville qui porte le nom du roi Saint-Louis. São Luís, c'est Saint-Louis. C'est complètement incroyable. Là aussi, c'est la volonté, à un moment donné, d'établir une colonie française. Alors, ça a duré encore moins de temps que la France Antarctique. Et c'était la volonté de créer la France équinoxiale. La France équinoxiale. Alors, France Antarctique, France équinoxiale. Vous voyez qu'il y a eu des tentatives absolument remarquables pour faire en sorte que la France s'installe dans ce continent. Alors, bien évidemment, de Rio à São Luís, il y a une distance qui est assez énorme. São Luís, c'est beaucoup plus au nord. Alors ensuite, je reprends deux, trois autres dates que je trouve assez intéressantes. On a 1743, c'est les expéditions de Charles-Marie de la Condamine en Amazonie. C'est le premier scientifique étranger qui est parti étudier la faune et la flore amazonienne. Bon, c'est un remarquable scientifique qui a beaucoup écrit là-dessus. Donc là aussi, vous voyez déjà la relation entre la France et cette zone du monde.
Et qui s'appelait comment ?
Il s'appelait Charles-Marie de la Condamine. Là aussi, notez tout ça, ce sont des personnages qu'on connaît assez bien, parce qu'il a aussi été ensuite en Argentine, la Condamine. Alors ensuite, on continue. Alors là, on se rapproche, on est en 1816, on est au moment où le Portugal donc, a cette colonie. Dom João Seix, le roi du Portugal de l'époque, est expulsé un petit peu après les guerres napoléoniennes. Il est obligé de quitter le Portugal et donc il vient s'installer un petit peu en exil, d'une certaine façon, au Brésil. Puis finalement, il va s'arranger, il a un enfant, etc. Et lui, il va retourner au Portugal et il va laisser son fils au Brésil. Ce fils va devenir l'empereur Dom Pedro Ier. Il proclamera l'indépendance du Brésil. Et c'est à ce moment-là, avec l'arrivée de Dom João Seix et Dom Pedro Ier, qu'il va y avoir un autre moment important de la relation franco-brésilienne, c'est la mission artistique française. C'est-à-dire que les Portugais vont inviter des artistes et des artisans français pour venir construire des bâtiments, créer des universités, créer des écoles des beaux-arts. Donc c'est un moment très riche où beaucoup d'artistes et d'artisans, c'est ça qui est intéressant, il n'y avait pas que des artistes, mais il y avait aussi des scientifiques, il y avait des menuisiers, il y avait des boulangers, il y avait des commerçants qui sont venus s'installer à ce moment-là au Brésil et qui ont participé, si vous voulez, à ce qu'est Rio aujourd'hui et ce qu'est le Brésil aujourd'hui. Donc la relation française, elle est très très importante. Alors ça continue encore, parce que c'est ça qui est incroyable, cette relation, elle n'a pas cessé depuis le XVIe siècle, ça continue encore, alors quelque chose qui est très intéressant, qui est en 1881, la création de l'école positiviste de Rio, l'influence d'Auguste Comte. Vous savez que la devise du Brésil, c'est ordre et progrès, qui font partie des piliers du positivisme, ordre et progrès. Il reste encore une église, elle est près de Gloria, c'est un quartier de Rio, une église positiviste qui fonctionne encore, et chaque dimanche, il y a une cérémonie. C'est absolument incroyable, c'est un spectacle surréaliste, je vous recommande d'y aller si vous êtes là. Donc voilà, la création de l'école positiviste, la devise brésilienne qui reprend comme ça des mots-clés du positivisme français, ordre et progrès. Et puis vous avez ensuite 1901, les vols de Santos Dumont à Paris, le grand aviateur brésilien qui fait des premiers vols sur Paris. Ensuite, vous avez toute l'histoire de l'aéropostale, l'aéropostale avec cette magie Saint-Exupéry, ces escales impossibles à Florianopolis, à Natal, à Rio. Donc, cette grande aventure humaine. Et puis, vous avez surtout, il faut quand même le citer, tout le XXe siècle, ça va rester un moment, enfin, tout le XXe siècle et avant, ça reste quand même un moment où de grands intellectuels et scientifiques français ont travaillé, se sont installés ou sont passés au Brésil. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Pierre Verger, ce formidable photographe. Mais vous avez Blaise Sandard, vous avez Georges Bernanos, Louis Pasteur, Lévi-Strauss, bien évidemment. Hommage à Lévi-Strauss, qui vient de nous quitter. Vous avez aussi Bourdieu, enfin, j'en passe et j'en oublie. Le Brésil a toujours attiré les scientifiques et intellectuels français qui sont venus soit y vivre, soit y travailler, soit y donner des cours. soit qui ont eu des élèves en France, parce que n'oublions pas que l'amour est réciproque. Hein. On ne vit pas longtemps quand ce n'est pas réciproque, c'est de la passion, à ce moment-là, ce n'est pas pareil. Et là, on peut parler d'amour, parce qu'il y a énormément de Brésiliens aussi qui sont venus se former, qui sont venus travailler, qui sont venus enrichir notre patrimoine culturel aussi français. Beaucoup sont revenus, d'autres sont restés. Et la relation brésilienne, elle se définit très bien dans cet aller et retour.
Vous avez une idée pour quelle raison, quel en serait le secret de ces amours franco-brésiliennes ?
L'amour a ses secrets que la raison n'a pas, mais certainement une histoire qui, depuis le début, s'est construite sur une relation de respect mutuel. Vous savez très certainement que l'influence de la France, du siècle des Lumières, de la Révolution française a pu avoir en Amérique latine. Et cette influence a eu aussi son effet au Brésil, et des élites brésiliennes se sont formées très tôt en France. Et puis n'oubliez pas l'influence du Portugal non plus, qui a construit ce pays et qui l'a construit aussi à travers la relation de proximité que ce pays avait avec la France. Donc je crois que c'est quelque chose qui est naturel. Et puis honnêtement, parce que c'est encore valable aujourd'hui, je pense que nous avons deux cultures qui vont bien ensemble. Vous savez, c'est comme les pièces d'un puzzle. Vous ne pouvez pas toujours expliquer pourquoi on arrive à bien emboîter les choses. Ben, honnêtement, entre les Français et les Brésiliens, le courant passe vite et naturellement. Il n'y a pas une grande difficulté. Finalement, on reste très latin. On voit les choses de la même façon. Peut-être qu'aujourd'hui, les Brésiliens vont un peu plus vite que les Français, parce que la France est un pays qui porte des siècles d'histoire sur ses épaules. Le Brésil est plus jeune. Le Brésil a certainement un espace plus ouvert et certainement de grands choix à faire et de grandes choses à offrir à lui-même et au reste du monde. Mais en tout cas, on sent cette vraie proximité. On pourrait parler des élites qui ont été formées en langue française, ça c'est la réalité. Mais aujourd'hui, on verra ça peut-être tout à l'heure, beaucoup de jeunes apprennent le français. Il ne faut pas penser que le français est la langue des retraités ou des personnes âgées. Non, non, la France et le Brésil sont des pays du présent et du futur et ils envisagent leurs relations sur ce mode.
Justement, nous allons parler plus particulièrement du français au Brésil après une courte pause. Donc je vous suggère de nous arrêter quelques instants avec un peu de samba quand même.
Um dia do meu amor, sambando. Onde anda o meu amor, sambando. Continua a perguntar onde anda o meu amor, pois não sei se foi sambar ou arranjar um novo alguém. Onde anda o meu amor, sambando? Onde anda o meu amor, sambando? Volta pra mim, meu bem, volta eu peço por favor, quero sambar.
Nous sommes à Rio de Janeiro, en compagnie du délégué général des Alliances françaises au Brésil, Yann Lorvaux, qui a la très grande gentillesse de nous recevoir dans son bureau. Il vient de nous faire un magnifique survol de ce continent quasiment qu'est le Brésil. Nous avons vu la géographie, l'histoire, la population, le rythme, la pulsation de ce pays, avec tout l'enthousiasme qui distingue les représentants des alliances françaises dans le monde. Et donc maintenant, on va se concentrer plus spécifiquement sur les alliances françaises au Brésil. Donc vous êtes le délégué général, donc j'imagine que vous êtes une sorte de pôle fédérateur, et Dieu sait si le pays est grand. Peut-être vous pouvez, Yann Lorvaux, nous parler un petit peu des différentes alliances dans les différentes provinces. Par exemple, il y a combien d'alliances au Brésil ?
Écoutez, il y a actuellement 39 alliances françaises au Brésil et 9 centres associés. Alors 39 alliances françaises, ça veut dire que les alliances françaises sont partout dans le Brésil, sont dans tous les États du Brésil pratiquement. Comme vous le savez, les alliances françaises sont des associations de droit local, des associations à but non lucratif, qui font partie du dispositif culturel français et qui travaillent de concert avec l'ambassade de France et les services culturels pour la promotion et la diffusion de la langue et de la culture française. Alors, la force des alliances françaises, c'est que, comme ce sont des associations, elles ont des comités de droit local et elles n'existent que parce qu'il y a un désir, une volonté locale d'un certain nombre de personnes, généralement des représentants de la société civile, tant du monde universitaire, économique, culturel, qui décident d'offrir de leur temps bénévolement, parce que les membres des comités sont bénévoles, d'offrir de leur temps pour finalement créer des maisons d'amitié entre la France et le Brésil au Brésil, entre la France et l'Argentine en Argentine, et ainsi de suite. Alors ce qui est intéressant pour l'Alliance française, c'est que l'Alliance française de Rio, elle a ouvert ses portes 2 ans à peine après la création de l'Alliance française de Paris, en 1883, c'est l'Alliance française de Paris. Et donc vous voyez, 2 ans à peine après, eh bien au Brésil, une première alliance se crée. On parle de plus d'un siècle de présence, hein. 124 ans d'histoire, 124 ans de présence, c'est vous dire si l'Alliance française du Brésil fait vraiment partie du patrimoine culturel et de l'imaginaire collectif du Brésil. L'Alliance française est brésilienne, avant tout, et elle est perçue comme ça par les Brésiliens. 124 ans de présence, c'est quand même quelque chose qui a du sens, qui a du contenu, qui a de la sève, il y a des choses qui se passent. Du reste, quand les gens qui parlent français ici vous disent où ils ont appris, une fois sur deux, ils vous disent qu'ils ont appris dans une alliance française. Donc on a une vraie responsabilité en même temps de continuer à maintenir ce lien, qui est un lien privilégié, entre nos deux pays. Et alors là, on a une chance énorme cette année, puisque, vous le savez sans doute, 2009 a été l'année de la France au Brésil. L'année de la France au Brésil, c'est peut-être la plus belle opération de communication gratuite que l'Alliance française a pu avoir ces dernières années, puisque grâce à une volonté brésilienne, une volonté politique, hein, brésilienne et une volonté politique française, dans tout le pays pendant un an, il y a eu une présentation de la culture française, mais vous savez, pas la culture française d'hier, pas la culture française que tout le monde connaît. L'accent a été mis sur une promotion de la culture française contemporaine. Alors dans tous les domaines, hein, autant des sciences sociales, de la philosophie, de l'économie, de la médecine, de la recherche scientifique, que du théâtre, que de la littérature, que du cirque, que de la danse, que de la chanson. Ça a été un feu d'artifice. Du reste, l'inauguration, c'était un feu d'artifice, hein, organisé par le groupe F, qui est un groupe français, hein, qui non seulement a fait le feu d'artifice d'ouverture, mais ce feu d'artifice a tellement plu au maire de Rio qu'il a décidé d'inviter le groupe F à faire le deuxième feu d'artifice le plus important de l'année, c'est-à-dire celui du 1er janvier. Donc, après sa présentation dans le cadre de l'année de la France, le groupe F, en l'occurrence, qui a fait déjà... C'est lui qui a fait le feu d'artifice de la Tour Eiffel cette année, hein, par exemple, et puis qui a fait à Sydney, enfin partout dans le monde, dans les grands événements, Jeux olympiques, divers et variés, c'est lui qui intervient. Et donc ça a tellement plu au maire de Rio qu'il a dit, bah, écoutez, revenez pour nous faire le feu d'artifice du premier de l'an. Ce qui veut dire
ça,
que...
grâce à l'année de la France au Brésil.
Grâce à l'année de la France au Brésil. Donc un événement culturel est devenu un événement économique maintenant, parce que vous imaginez bien que ça a un coût d'organiser un feu d'artifice. Ça a permis donc de présenter partout dans le Brésil et d'insister sur le fait que nous sommes deux pays jeunes finalement. Le Brésil est un pays jeune, mais en France, on a aussi beaucoup de jeunes. Et puis en France, on a une vraie mixité aussi, comme le Brésil a une mixité. Et cette mixité s'exprime aussi à travers des cultures urbaines, par exemple. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de places liées au design, à la mode, mais également à la danse, au hip-hop, enfin à toutes ces expressions artistiques d'aujourd'hui. Donc ça a renforcé énormément notre relation, le décor général. Alors bien évidemment, l'année de la France au Brésil, c'était pas uniquement l'Alliance française, c'était les services de l'ambassade, c'était un commissariat français avec l'appui de Culture France et un commissariat brésilien avec toutes les autorités de l'État au Brésil. C'est avant tout une décision politique entre deux pays. En 2005, il y avait du reste eu l'année du Brésil en France, qui avait été un succès phénoménal parce que la vague de bonne humeur du Brésil avait emporté tout sur son passage. Il y avait même eu, je me souviens, d'un défilé sur des bateaux-mouches, d'un extrait du carnaval. Enfin bon, ça avait été quelque chose d'extraordinaire.
Donc ça reposait sur une volonté politique entre les présidents Sarkozy et Lula.
Absolument. Et du reste, ça a débouché parce que tout ça, vous savez, la culture, c'est l'écrin, souvent, d'un diamant. Enfin, moi, je pense très sincèrement que c'est vraiment là où est le rôle de la culture. Et donc, cet écrin culturel a certainement facilité, favorisé, en tout cas, la signature d'un accord stratégique très important entre nos deux pays, hein, puisqu'il s'agit de vente de matériel et de transfert de technologie. Hein. On parle des hélicoptères, des sous-marins nucléaires. Actuellement, il y a aussi un projet éventuellement de vente d'avions. Donc tout cela, finalement, repose sur un écrin culturel, les deux pays s'entendant bien, se comprenant bien, se parlant bien, échangeant pas seulement au niveau des affaires, mais aussi au niveau de la culture et des idées, et des engagements plus politique, ben, tout ça crée un climat extrêmement favorable. Alors là-dedans, l'Alliance française, elle bénéficie de tout ça. Puisque nous, on est là, comme je vous l'ai dit, depuis 124 ans. Cette année de la France, ça a permis de mettre de la lumière sur nos associations, mais surtout, ça a permis à l'année de la France d'exister partout dans le Brésil. Sinon, l'année de la France aurait existé à Brasilia, à Sao Paulo et à Rio. Mais grâce à la présence de nos alliances françaises dans tout le territoire, eh bien, nos directeurs se sont saisis de ces opérations en collaboration avec l'ambassade, avec le commissariat français et brésilien, pour décliner l'année de la France sur tout le territoire. Alors, vous savez, il n'y a pas de petite, de moyenne ou de grande alliance française. Il y a des petites, des moyennes ou des grandes villes. Donc la déclinaison était en fonction de la taille, de la volonté des villes et des États, bien évidemment. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire.
Donc une pénétration de la culture, de l'esprit et d'un certain mode de vie français dans toutes les provinces. C'est assez extraordinaire même à imaginer.
Et oui.
Et vous étiez un peu occupé durant cette année.
Alors on a eu effectivement une année en même temps très intense, mais forcément inoubliable, parce qu'en fait on fait ce métier pour rencontrer les autres. Et donc toutes les occasions qui peuvent nous permettre de nous rencontrer et de travailler ensemble et de construire ensemble, sont des occasions qui sont des occasions à ce moment-là pas seulement agréables mais utiles pour les valeurs que nous défendons.
Donc tout à l'heure, j'avais dit que vous allez peut-être, si vous voulez bien, nous raconter un petit peu la vie d'un délégué général des Alliances françaises au Brésil. C'est-à-dire, on a du mal déjà à vous joindre, parce que vous êtes à peine rentré de São Paulo que vous repartez pour Porto Alegre, ou alors vous êtes dans le nord-est, à Bahia, etc. Vous voulez pas nous raconter un petit peu vos secrets personnels?
Alors effectivement, après, ça dépend beaucoup de la conception qu'on a de son travail. L'Alliance française, c'est, comme je vous l'ai dit, 39 alliances au Brésil. Et c'est intéressant de voir un peu qui sont les directeurs. Vous avez 19 directeurs d'Alliance française, mais 21 experts français. Et donc le reste, ce sont des experts locaux, des directeurs locaux. Donc tout le travail du délégué général, c'est d'aller rencontrer les gens sur leur terrain. D'abord aller à la rencontre des comités, aller à la rencontre des professeurs, mais aussi aller à la rencontre des étudiants. Et puis également aller à la rencontre des médias, parce qu'il ne faut pas faire, il faut aussi dire, il faut faire connaître. Et puis aller à la rencontre aussi des institutions publiques, parce qu'il faut travailler avec les autorités élues. Et puis aller aussi vers les entreprises, parce qu'il faut trouver des partenariats. Alors le travail d'un délégué général, c'est ça, c'est d'apporter de l'expertise, d'apporter de la présence, c'est d'apporter aussi un accompagnement pour aider nos directeurs à mieux se positionner. Finalement, ce que je dis souvent aux directeurs qui me reçoivent, je leur dis, utilisez-moi, profitez que je vienne. Je suis ici représentant de la Fondation, c'est-à-dire la Fondation Alliance Française de Paris me donne un mandat pour représenter la Fondation au Brésil. Et donc, cette image, ce statut permet, si vous voulez, d'appuyer, de conforter les directeurs dans leurs projets, dans leur conquête de nouveaux publics, dans leur crédibilité par rapport éventuellement à des partenariats. Et donc, il y a un travail de proximité qui est très important, surtout pour les directeurs locaux. Parce que les directeurs locaux, si vous voulez, ils restent. Ils ne passent pas comme nous 3 ou 4 ans dans un pays étranger. Eux, ils sont là pour 10 ans, 15 ans, toute une vie parfois. Et donc, on a besoin d'aller vers eux pour les aider, pour les professionnaliser aussi. On a un gros travail de professionnalisation, ça c'est absolument essentiel. Mais également d'essayer de voir leurs besoins ou tout du moins de les guider également sur les perspectives à moyen terme pour être plus conforme avec les attentes du public. Alors, ça va dans des choses qui sont très très simples, hein, qui sont l'équipement en informatique, de la mise en place d'un label qualité Alliance française, c'est-à-dire faire attention à l'accueil du public, à la communication de notre offre de cours, à notre programmation culturelle, éventuellement à la création d'une petite cafétéria, à comment sont équipées nos salles de cours, est-ce que les chaises sont confortables ou pas, est-ce qu'il y a l'air conditionné ou pas, est-ce qu'on utilise l'Internet, est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans les Alliances françaises, est-ce qu'on utilise un vidéoprojecteur avec un ordinateur pour pouvoir éventuellement aller sur un Internet et puis proposer un article de journal ou écouter les émissions de Canal Academy. Voilà, tout ça, si vous voulez, est important. Donc, le rôle du délégué général, c'est vraiment ça, apporter ce regard extérieur, fixer un projet global et s'assurer que toutes les alliances françaises vont dans cette direction et franchissent les différentes étapes.
Donc, tout cela coûte cher. Sur quelle base repose l'économie de ces infrastructures des alliances françaises ?
j'allais dire, à 100% sur la vente des cours de français. C'est parce que nous vendons des cours de français que nous sommes indépendants et autonomes. Ensuite, nous cherchons des financements complémentaires auprès du secteur public ou privé. Vous savez qu'au Brésil, il y a un système de loi de défiscalisation. La culture, si je veux simplifier, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, la culture est financée grâce à des lois de défiscalisation qui sont appliquées à toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise quelconque, pétrolière, fabricant d'automobiles, une entreprise d'électricité, tous ces gens-là ont la possibilité de payer moins d'impôts en reversant une partie de leurs bénéfices pour financer des projets culturels.
C'est une belle idée. Depuis le président Lula ou ça existe depuis longtemps?
Il y a une vraie tradition au Brésil, d'une certaine façon. Alors, il y a aussi une politique culturelle publique, mais elle est peut-être moins présente, ou en tout cas, elle a moins de moyens financiers qu'une autre politique culturelle privée qui vient de ces lois de défiscalisation qui permettent donc, à travers un report d'impôts, une réduction des impôts, de financer des projets culturels. Alors ça, tout le monde peut en profiter. Il faut déposer des dossiers, il y a des jurys. Alors vous pouvez proposer des dossiers pour des sites de conférences, pour des pièces de théâtre, pour des expositions. C'est ouvert à tout le monde. Il y a des jurys qui, soit directement les entreprises vous donnent de l'argent, soit vous avez l'autorisation par le ministère d'aller voir les entreprises en disant « voilà, mon projet a été accepté et ainsi il peut bénéficier d'une exemption d'impôt. Donc vous pouvez, si vous nous donnez de l'argent, vous pouvez retirer ça de ce que vous allez payer normalement dans vos impôts. » Donc ça, voilà, il y a les deux. Soit on vous donne directement l'argent, soit vous allez voir les entreprises en leur disant « voilà, mon projet a été labellisé, vous pouvez le financer en bénéficiant de ces lois. » Alors autre chose qui est peut-être important, on a aussi bien évidemment à travers le ministère des Affaires étrangères, enfin en tout cas la délégation générale, on reçoit aussi des subventions pour animer et coordonner le réseau. Alors ce sont des petites subventions, mais enfin néanmoins elles sont utiles. Et puis la délégation peut aussi chercher des financements complémentaires en utilisant des moyens mis à disposition par les régions françaises. C'est la politique de décentralisation. Également, éventuellement, on reçoit des appuis parfois du Sénat, de l'Assemblée nationale. On peut aussi recevoir des appuis de Culture France, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères, pour financer des projets culturels. Donc, on fait un nouveau métier. On est maintenant plus des assembliers. On est plutôt aujourd'hui des artisans et on construit des mosaïques, des kaléidoscopes. On ne peut plus rien faire seul. On est obligé d'ajouter plusieurs petits moyens pour arriver à faire de grandes choses. Alors c'est un nouveau métier, c'est un métier qui a évolué, qui va dans ce sens-là, mais c'est pas plus mal. Néanmoins, on défend quand même des valeurs dans les années françaises, ce que je souhaiterais vous répéter, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait mieux au niveau associatif pour l'instant dans le dispositif culturel.
Oui, parce que je crois que l'esprit de l'Alliance française est devenu comme un modèle d'échange véritable et vraiment dynamique et sincère. On a même entendu une Alliance française attitude. C'est très remarquable.
Ah, mais je suis assez d'accord avec ça. On a des valeurs qu'on défend. C'est un engagement. Et quand on s'engage, généralement, dans la vie, on ne triche pas. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je vais vous dire. Mais néanmoins, c'est de ce ciment-là que nous nous servons pour construire un petit peu cette maison d'amitié entre la France et le Brésil. Alors, bien évidemment, il y a la solidarité, le partage et l'échange. On n'est pas du tout autiste, on est dans une culture d'accueil et donc on travaille avec cette culture d'accueil. On vit, on s'imprègne de cette culture d'accueil pour faire rayonner la langue française et la culture française. Je vous rappellerai uniquement que quand on parle Alliance française, on parle langue et culture. C'est une grande différence par rapport à beaucoup d'autres institutions qui représentent la concurrence, qui font que de l'enseignement technique de la langue. Nous, c'est langue et culture indissociables. Vous ne rentrez pas dans une Alliance française sans que vous soyez dans un univers linguistique, mais aussi culturel. Et ça, vous l'êtes à travers les activités culturelles, la programmation culturelle, les bibliothèques ou les médiathèques que nous avons, les abonnements que nous recevons et les experts français qui sont présents. Alors, il y a aussi, bien évidemment, et ça, on s'est beaucoup amélioré là-dedans, tout ce qui est la recherche de la qualité et de l'efficacité. On vend des cours de langue. Si on vend des cours de langue, il faut que nos étudiants soient satisfaits et qu'ils s'y retrouvent. Il y a aussi l'innovation. L'Alliance française, si elle veut continuer à exister, doit surprendre et doit à chaque fois proposer une pédagogie innovante et active. On doit aussi savoir développer une vraie expertise. On doit certainement mieux encore utiliser les nouvelles technologies. Il s'agit de dynamiser tout un environnement de travail en réalité. Alors les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est devenu le cœur de notre projet ici au Brésil, où on vient de créer un bureau virtuel C'est-à-dire que chaque alliance française avec un code peut se retrouver sur une plateforme collaborative, hein, où on trouve non seulement une messagerie, mais aussi des documents à partager, où on trouve le petit Robert électronique mis à la disposition de tout le monde, un abonnement à plusieurs revues, et même l'autorisation de télécharger des chansons françaises ou d'écouter des livres audio. Donc nous, notre idée, c'est d'offrir ce bureau virtuel à tous nos directeurs, à tous nos présidents, mais aussi à tous nos élèves. Et là, on est en train de développer ça. C'est un vrai changement de fonctionnement, puisqu'on n'est plus uniquement dans la vente du service, mais on est dans le service après-vente. Parce que cette plateforme, l'étudiant a accès de chez lui, qu'il soit en France, à l'étranger, qu'il soit à Rio le matin ou à Rio le week-end, à n'importe quel moment, il peut continuer à avoir un contact avec la langue et la culture française.
En tant qu'étudiant d'une alliance française au Brésil.
C'est notre plus que nous offrons.
Votre fierté. C'est votre vitrine actuelle la plus spectaculaire.
Enfin, en tout cas, c'est ce projet novateur que nous proposons. Je vous parlais d'innovation. Mmh. On est dans l'innovation. On doit s'adapter à notre public. On a un public qui vit avec Internet. Donc, on a cherché, et donc qui utilise Internet tous les jours, pour faire ses courses, pour faire ses transferts bancaires, pour envoyer des messages. Donc, on utilise cette réalité-là pour essayer de le rapprocher de notre institution et d'un environnement linguistico-culturel qui lui permet de garder contact avec nous. Et puis enfin, on a le respect de la convivialité, parce que dans les alliances françaises, on respecte l'autre et on fait attention de bien l'accueillir. Ce sont des maisons d'amitié, comme je vous l'ai dit, et il faut chercher à tous les niveaux, assurer une formation continue de nos personnels, préparer nos personnels à mieux recevoir nos étudiants, faire en sorte que chaque étudiant qui vient se sente bien et ait envie de revenir, et vraiment l'occasion de faire une rencontre.
Tout ça est absolument magnifique, parce qu'on sent vraiment un engagement, comme vous l'avez évoqué, foncier. Mais quelle est la motivation première pour un Brésilien de vouloir s'approcher d'une alliance française, c'est-à-dire vouloir apprendre le français? Et deuxième question, quelle est la pénétration concrètement de l'enseignement du français au Brésil?
Ce sont deux questions qu'on se pose au quotidien. D'abord sur le nombre d'apprenants, le nombre de personnes qui étudient le français. Je vous rappelle que le Brésil est le premier réseau mondial des alliances françaises. L'alliance française au Brésil a 35 000 étudiants. C'est la première alliance française au monde. C'est le premier réseau au monde, 35 000 étudiants. Combien de personnes étudient le français au Brésil? En réalité, des statistiques tendent à nous prouver qu'il y aurait 200 000 personnes qui apprennent le français au Brésil, dont 35 000 dans les alliances françaises. La majorité apprenant le français dans les collèges, et plutôt dans l'état de Rio. L'état de Rio, pour les raisons que je vous ai racontées tout à l'heure, la France antarctique, toute cette histoire liée à la mission artistique, l'état de Rio est resté un état plus francophone que les autres. Vous savez aussi que Rio était la capitale du Brésil avant son déménagement il y a 50 ans à Brasilia. On pourrait du reste citer l'importance aussi de Le Corbusier, hein, qui a construit énormément de bâtiments, dont l'ambassade de France à Brasilia là-bas. Et donc 35 000 étudiants dans le réseau des alliances, premier réseau mondial, 200 000 au Brésil, dont 100 000 dans l'état de Rio. Finalement, ça peut paraître très impressionnant, et en même temps, je vous rappelle qu'il y a 200 millions de Brésiliens. Donc ça touche une minorité, mais en même temps, c'est assez conforme aux chiffres qui touchent l'enseignement au Brésil. De mémoire, je vais vous retrouver ça, je crois qu'il y a 52 millions d'étudiants dans le cycle basique, 52 millions jusqu'au baccalauréat, on va dire, hein. 52 millions de jeunes qui étudient au Brésil, qui sont scolarisés, et il n'y en a plus que 4-5 millions qui sont dans le système universitaire. Donc vous voyez un petit peu tout le travail que le Brésil doit encore faire pour de cette jeunesse vivante et qui est vraiment certainement l'avenir, la poudre magique pour construire le Brésil de demain, ce passage d'une éducation primaire, principale, jusqu'à l'éducation universitaire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, donc par rapport à ça, on a 200 000 personnes qui apprennent le français, vous avez dit 35 000 dans les alliances françaises, sont principalement des étudiants, figurez-vous. Plus de 60% de notre public a entre 18 et 25 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'ils apprennent le français? Ils apprennent le français parce qu'ils veulent d'abord continuer, pour un certain nombre d'entre eux, leurs études en France, ou leurs universités ont des accords avec des universités françaises. Je vous rappelle aussi qu'on a beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées au Brésil, donc là aussi, il y a un intérêt, bien évidemment, d'apprendre le français, donc de trouver du travail. Et puis le Brésilien a une mentalité qui est absolument incroyable. Les Brésiliens adorent se former. Ils pensent que c'est encore à travers la formation, et ils ont raison de le penser du reste, que c'est en se formant, en se diplômant, en se surdiplômant qu'on arrive à gravir l'échelle sociale. Et donc vous verrez dans ce pays des gens qui ont 2-3 métiers, 2-3 occupations, donc qui travaillent le matin dans une entreprise, dans l'après-midi dans une autre, et puis le soir ils vont à l'université où ils font un cours d'informatique, où ils font un cours de français, où ils font un cours de gymnastique. Mais le Brésilien a cet appétit, a cette appétence pour être toujours dans un cycle de formation continue. Et avec cette conviction que c'est plus je serai préparé, plus j'aurai de cordes à mon arc, mieux je pourrai grandir et m'imposer dans ce pays et avoir une situation meilleure.
C'est tout à fait remarquable parce que, d'après certains documents que j'ai pu étudier, on parle d'un Brésil un peu lassif, que les gens aiment le plaisir de la vie et que le travail, c'est quelque chose d'accessoire. Et je suis très heureuse d'apprendre de votre part que les Brésiliens aiment se former, ce qui est probablement une grande partie de ce dynamisme dont il était question tout à l'heure.
Ben, on peut aussi rajouter que dans les accords stratégiques qui ont été signés entre la France et le Brésil, ces accords stratégiques impliquent la formation de techniciens, impliquent la formation d'ingénieurs, impliquent la formation d'un personnel chaque fois plus nombreux et chaque fois plus spécialisé. Donc non, l'avenir, honnêtement, il est grand ouvert. Hein. Et quand on voit le challenge, le défi énorme de l'organisation de cette Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, quand on voit qu'il va falloir construire des routes, qu'il va falloir construire des maisons, qu'il va falloir construire des hôpitaux, qu'il va falloir construire des aéroports, des stades de football, mais aussi du transport public, c'est-à-dire du métro, du tramway. Vous imaginez que là, il va y avoir une grosse concurrence de nombreuses entreprises internationales. Et bien évidemment, les Français sont déjà là, travaillent déjà pour remporter des marchés et travailler avec les Brésiliens pour améliorer les infrastructures de ce pays. Parce que honnêtement, il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'en France, c'est assez connu qu'il y a tout ce potentiel de développement au Brésil ?
Oui. Alors, c'est plus que ça. Le président Lula et le président Sarkozy se sont rencontrés 9 fois jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, il y a une vraie relation, une vraie transparence et une vraie qualité dans cette coopération, qui est une coopération où tout le monde est gagnant. Il n'y a pas quelqu'un qui profite plus de l'autre. On est dans un moment extrêmement favorable. Alors, l'année de la France au Brésil a mis de la lumière ou a mis du maquillage sur ce visage franco-brésilien, qui est un visage qui a envie de sourire au monde et qui a envie de dire des choses au monde et qui a envie d'être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire, comme on le disait peut-être tout à l'heure, un visage d'avenir, un visage radieux, un visage en tout cas qui essaye d'apporter du développement, mais aussi de la solidarité.
Bah écoutez, ça c'est une parole de conclusion absolument magnifique. Juste une dernière petite question, est-ce que vous avez un vœu, une ambition particulière, vous, le délégué général des Alliances françaises au Brésil ?
Vous savez, le vœu, il est que le projet que nous avons, qui est un projet de développer notre institution, de la rapprocher plus des besoins et des envies de cette société qui bouge, que nous puissions le faire ensemble. Parce que ce qui est intéressant, vous savez, dans les Alliances françaises, c'est que nous formons un réseau. Et un réseau, c'est travailler avec des personnes, c'est travailler avec une équipe, c'est travailler avec un collectif. Et ce que j'ai souvent l'habitude de dire à tous les directeurs lorsque nous nous réunissons, et c'est vrai, vous avez raison, je bouge beaucoup, j'étais à Sao Paulo, Porto Alegre, je vais partir à Brasilia dans quelques jours, je vais aller à Florianopolis en début de semaine prochaine. J'essaie d'être présent sur le terrain pour rencontrer les gens, pour rencontrer leur réalité, pour leur montrer le respect que nous avons pour le dévouement dont ils font preuve. Et j'ai souvent l'habitude de leur dire deux choses. Il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier dans notre métier. En tout cas, au Brésil, nous sommes là pour moderniser ensemble la tradition.
Très, très belle notion.
Enfin, ce que je leur dis souvent, vous savez, dans la vie, l'échec est souvent individuel et le succès est toujours collectif. Et donc, c'est un travail d'équipe sur nos valeurs. C'est ensemble que nous réussirons parce que quand on est 39, on est 39 à réfléchir ensemble, on est 39 à essayer d'avancer ensemble et on avance toujours plus vite quand on est nombreux que quand on est tout seul avec des certitudes qui parfois s'avèrent imparfaites. Vous voyez, on peut garder un petit peu ces deux formules. Modernisons ensemble la tradition, ayons et gardons un esprit collectif, parce que c'est vraiment ça qui nous permet de donner du sens à notre mission et peut-être un petit peu de saveur à notre vie personnelle.
Écoutez, je vous remercie infiniment, Yann Lorvaux, de cet entretien qui était vraiment plein de vie. Et on a reçu énormément d'informations sur ce vaste territoire qu'est le Brésil. Je vous souhaite évidemment une belle réussite ou une continuation de votre belle réussite dans ce pays. Merci beaucoup. Et je vous dis au revoir, peut-être à bientôt au Brésil ou à Paris.
Obrigado, até logo.
Obrigada.